La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
Je vis en essayant au maximum de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. Au maximum d'essayer de parler de ceux qui ne mangent pas. De ceux qui n'ont pas le droit de penser.
Au son de nos archives, les mots de Sonny Laboutancy interrogent la violence du pouvoir et notre capacité à lui résister, ici et ailleurs, hier et aujourd'hui. Son œuvre urgente, sa double filiation artistique assumée, européenne et africaine, son lyrisme créatif et sa détermination politique l'inscrivent dans l'héritage de Aimé Césaire lorsqu'il écrivait « Je suis fait pour dire la part de l'histoire qui n'a pas mangé depuis 4 siècles ». Roman, théâtre, poésie, l'écriture frénétique de Sonny Laboutancy, mort en 1995, fait date dans l'histoire littéraire francophone et reste exemplaire pour la génération qui lui succède.
Il y a des gens au monde à qui on empêche de penser, mais absolument, il ne faut pas qu'ils pensent. Et quand j'imagine, j'ai dit, mais si moi on m'avait empêché de penser, qu'est-ce que je serais? Je ne serais rien. Alors, je vis de ça, je me nourris de ça. J'écris des livres simplement parce que je vois que notre monde dit civilisé. Disons que ce monde est civilisé. Malheureusement, il y a tellement de choses ici qui montrent que ce monde est barbare et qu'il est en voie d'ensauvagement. Et moi, je le dis. J'ai pas beaucoup de temps pour le dire, mais je le dis.
1947-1995, 48 ans de vie, Sonny Laboutancy, né au Congo belge, actuel RDC. Une enfance auprès de sa grand-mère à Kimwenza, au sud de Kinshasa, puis une traversée du fleuve pour être scolarisé en français à Brazzaville, dans l'autre Congo. Une expérience de prof d'anglais qui mobilise le théâtre pour enseigner autrement et pour tenter de faire place à l'individu dans un pays socialiste. Engagé poétique, Sonny Laboutancy répétait à l'envi: pour moi, on n'est écrivain qu'à condition d'être poète. Comment le comprenez-vous, Nicolas Martin-Granel ?
Ça me paraît assez clair. C'est une formulation qu'on trouve dans un de ses entretiens. Sur cette poésie qu'il a, j'avais jamais réussi à publier de son vivant, mais par laquelle il a commencé. C'est tous les débuts de son écriture. C'est la condition à la fois chronologique, mais le plus profond aussi dans son écriture.
Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre la voix de Sonny Laboutancy ?
Pour moi, c'est toujours une émotion, parce que je l'ai encore dans l'oreille. Et cette voix très douce par rapport à son écriture, direct, parole vive, quoi.
Voilà. Vous êtes l'un des artisans majeurs de la publication scientifique et critique de l'œuvre de Sonny Laboutancy, notamment de ses poèmes. 1200 pages recopiées à partir d'archives manuscrites retrouvées chez Sonny, votre ami, à Brazzaville. J'aimerais que vous nous emmeniez avec vous dans ce flashback mémoriel et que vous poussiez la porte de sa maison. Qu'est-ce que vous trouvez ?
Alors, pousser la porte de la maison, d'abord, il y avait un petit jardin. Ce qu'on connaît de Sonny, c'est son accueil dans cette petite jungle. Là, il n'y avait pas de mur. Quand je suis arrivé en 89, oui, tout de suite, on l'a rencontré. Il était toujours accessible, disponible. Bon, après, il y a plusieurs stades. L'accès aux manuscrits, ça a pu se faire qu'un petit temps après sa mort, que la famille se ressaisisse. Enfin, c'est Sylvain Mamba qui disait qu'on n'entre pas dans la chambre bureau. Ça, ça fait partie de l'intime. Je parlais avec son cousin, Victor Mbilapassi, et avec les écrivains de la fratrie qui s'étaient regroupés depuis la chute un peu du Parti Unique dans une association d'écrivains dans laquelle moi j'étais collègue, comme ça, je enseignais à l'université, mais on était accueillis en tant qu'écrivains, écrivants, critiques, voilà. Et donc, on dit, il faut quand même aller voir ce qu'il y a, ce qui reste. Et là, je vois, au fond de sa petite armoire, des cahiers jetés, empilés, qui sont des manuscrits et qui sont presque comme des manuscrits enluminés du Moyen-Âge, vous voyez, d'avant l'imprimerie, qu'il envoyait à droite, à gauche, à Françoise Ligier, à José Pivin, ses amis, aux quatre coins du monde. Et donc, il en restait quelques-uns, enfin, non seulement des romans de jeunesse qui sont pas publiés, qui seront encore, ça fait partie du chantier qui n'est pas terminé, mais beaucoup quand même de cahiers de poésie. Voilà. Après, il y a la guerre en 97, donc moi, je suis obligé de partir. Je remporte ce que j'étais en train de photocopier, je mets dans mon baluchon, et voilà. Et on fait un premier livre avec la revue Noire avec ça. Mais quand je reviens en 2003, ensuite en 2008, la guerre est passée par là. Bon, qu'est-ce qui reste? Là, j'avais mis une cantine dans laquelle j'avais mis « Je trouve plus la cantine ». Apparemment, la cantine me paraissait plus précieuse que ces vieux cahiers. Et je retrouve des cahiers, pas tout, presque tout, mais d'autres qui sont venus, je sais pas comment, peut-être dans d'autres pièces de la maison, je sais pas. Et là, encore des cahiers de poésie. Donc ça a commencé à faire un très consistant. Et quand on a, donc on a publié... En 2005, avec le coffret anniversaire, la revue Noire. Et puis, quand maintenant, l'item s'est créé, une équipe justement, qui travaille sur les manuscrits africains, et notamment congolais. Voilà, on a décidé, ben, c'est par là où Sony a commencé, c'est par là qu'il faut commencer à publier. Donc, réparer cette injustice criante que Sony était un grand poète.
En tant que passeur de l'œuvre de Sony Laboutoncy, enseignant-chercheur à l'ITEM, hein, vous venez de le citer, l'Institut des textes et manuscrits modernes, vous collectez donc les textes, mais aussi les enregistrements, pour les partager avec les auditeurs de RFI. Et vraiment, je vous en remercie. Alors là, on va à Brazzaville, avec Sony Laboutoncy, à la rencontre des étudiants.
Des étudiants de l'université, Marianne Gouabi, au campus Bayardel, c'est là où je travaillais avec mes collègues. Professeur Kadiman Jouzi, André Patient-Bokiba, qui me disent, bah, tiens, deux cassettes.
J'ai dit d'abord pourquoi j'écris, hein. Ça devrait être ça, je crois qu'on peut discuter de ça un peu, si vous voulez. Moi, ça, je prends ça pour un acte de vie personnellement, mais comment c'est devenu comme ça, on peut commencer peut-être par là. Il y a une chose qui, moi, me fait peur en tant qu'écrivain, c'est une chanson, Larry. Peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent, c'est Ndombi Kundombi, Sadidi Mukanda, Commanda Diani Machuandele, Ndombi Kundombi, Sadidi Mukanda, Commanda Diani Machuandele. Alors on peut traduire ça pour les amis, c'est-à-dire que écrire une lettre pour un nègre, pauvre nègre, c'était une chose grandiose. C'était comme ça au départ, hein, dans l'histoire. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il n'y a même pas 50 ans. Donc c'était du temps de Machua, c'est-à-dire les années 40, qu'on chantait cette chanson dans le pool pour faire le caoutchouc. On disait, même un nègre peut écrire, oh là là, le monde avance. Pour moi, je ne crois pas que ça. Le monde n'avance pas de mon point de vue, et c'est peut-être à cause de ça que j'écris.
Le combat de Sony Laboutancy se lit dans ses romans, son théâtre et ses poèmes publiés en français, la langue apprise à l'école coloniale.
Pour mon oncle, parce qu'ici l'enfant appartient à sa mère, donc pour mon oncle qui voulait faire de moi un blanc, un homme civilisé et tout, il est venu me prendre en toute vitesse pour me mettre là où les gens parlaient français, parce que parler français aussi était considéré comme une chose grandiose. J'espère que ça va s'arrêter un jour, de dire, celui qui parle français, on n'entend pas ce qu'il dit, mais vous entendez dans le quartier, on dit, ah, l'umputukatabubaku, Nathalie. Il parlait vraiment un français comme ça. Bon, ben oui, que ça veut dire parler un français comme ça, parfois on dit des bêtises à l'intérieur de ce français comme ça, mais ce qui comptait, et ce qui a compté pendant longtemps, c'était le fait de parler français comme ça. Et il y en a qui parlent français, il faut qu'on entende beaucoup mieux, vous voyez. Donc, on était obligé de parler français, même quand on ne savait pas parler français comme moi. Il y avait un symbole, donc une grosse boîte comme ça, pleine de merde. On vous accrochait ça au cou et vous étiez le guetteur. Alors souvent, quand les gens avaient le symbole, ils me cherchaient partout, où est Sony, et tout de suite, on me remettait le symbole parce qu'on était sûr que de toute façon, je ne parlais pas français et que je commettais des fautes même quand j'essayais de parler. Pendant toute l'année de cours moyen, donc première année, ça s'est passé comme ça. C'était très 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 dur et j'ai dû un peu apprendre le français en courant.
La voix de l'écrivain congolais Sony Laboutancy dans La Marche du Monde. Il relate les humiliations de l'école coloniale, son apprentissage de la langue française, mais aussi son rapport aux autres langues du Congo, comme le lari parlé à Brazzaville, mais aussi dans la région du Poul ou encore à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve. Quelle est sa relation au fond à ces différentes langues, Nicolas Martin-Granel? Et puis, pourquoi écrire en français, du coup?
C'est une question qu'on lui a posée. Il faut savoir que c'était un objet de polémique entre les écrivains eux-mêmes. Bon, c'était une polémique, hein, et évidemment, il faut savoir, après les indépendances, il s'agissait d'écrire en français. Et Sony était une position un peu difficile à comprendre. Dans l'ancien Congo belge, il était alphabétisé en langue nationale, c'est-à-dire en Kikongo. Mais il ne supportait pas les transcriptions qui avaient été élaborées par les savants. D'une part, il voulait s'adresser au maximum de monde. Et ensuite, il pouvait écrire dans n'importe quelle langue. Dis-moi, je pouvais écrire, je sais pas, en esquimau. Le hasard m'a mis là, dans le Congo, mais en tant qu'homme, bon, je prends ce que j'ai à ma disposition, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas écrit en Kikongo. Alors, quelque part, il dit, j'ai un roman de 400 pages en Kikongo. Bon, on n'a pas retrouvé ça, peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a écrit des poésies en Kikongo, qui ont été traduites par Patricia Ngo parmi les 1300 pages. Il y a quand même une dizaine de pages de poésie en Kikongo.
La langue, c'est la poésie qu'il y a derrière ou les idées qu'il y a derrière? C'est pas le dictionnaire, je crois. Hein. Il faut pas être piégé par les dictionnaires. Il faut pas être piégé par la syntaxe. Je crois qu'il faut inventer un langage. C'est nous qui donnons vie aux mots. Et il n'y a pas de mots éternels. Or, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la langue française, ça m'intéresse pas. C'est le langage que je peux trouver à l'intérieur de ça pour arriver à communiquer parce que nous avons. Parmi tant de problèmes qu'on a, c'est le problème. On a la télé, on a le fax, on a tout ce qu'il faut. Mais en termes de communication, on est nul. Hein? On est peut-être l'époque la plus nulle qui soit en termes de communication. On n'arrive pas à communiquer. On ne crée que des solitudes, des gens seuls, des gens... Parfois, c'est effarant. Tout le monde parle, personne n'écoute. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens comme ça à l'intérieur d'une langue, quelle qu'elle soit? Parce qu'en plus, moi, j'écris aussi en Congo, même si les seuils ne publient pas en Congo, mais j'écris aussi en Congo. J'ai essayé d'écrire en anglais aussi. Ça m'a fatigué parce que, bon, à un moment donné, j'ai trouvé que les mots étaient trop... Comment dire ça? Tu peux jouer en anglais à former les mots, à fabriquer les mots, ça serait plus simple. Mais c'est pas vrai, parce qu'il leur manquait quelque chose, quoi, une âme ou je sais pas quoi qui manque. Qu'on trouve dans certaines images comme ça au niveau du français, il y a des images très 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 fortes qui sont séduisantes, qui passent dans toutes les langues comme ça.
Les éditions du Seuil publient les romans de Sony Laboutancy à partir de 1979. Le tout premier, La vie et demie, se déroule dans un pays imaginaire, la Katamalanasi, un immense pays d'Afrique noire soumis à la plus sanglante, mais aussi la plus absurde dictature, humour et pessimisme.
La vie et demie, je l'ai écrite en 1977. Le 13 mars, j'étais à Brazzaville. Parce que j'étais un très très grand ami de Massamba Déba, qui était notre deuxième président. On a parlé beaucoup, j'avais envie d'écrire un livre sur lui à l'époque. Et je suis allé à Boko pendant 3 ans, on est restés ensemble. On était devenus vraiment très amis. Alors bon, j'étais à Mindouli, directeur de collège, puis je dors, je vois un truc bizarre dans le rêve. Alors, moi je crois beaucoup au rêve. J'ai rêvé que quelqu'un était venu m'apporter deux costume. Il y avait un costume militaire tenu léopard, comme ils disent, plein de sang. Et je reconnaissais la tenue du président Ngouabi à l'époque, et puis une veste que Massamba Déba portait souvent. Alors j'ai rêvé ça, et puis je dis, il y a quelque chose. Donc j'ai pris le train, je suis venu à Brazzaville, et on a commencé à en discuter en disant, mais c'est terrible. Ça, c'était le 13 mars. Et puis il me dit, bon, ben écoute, on ne sait pas ce qui va se passer, tout ça, mais... Évidemment, je suis reparti à Mindouli, et le 18 mars, les autres, ils ont tué Ngouabi, puis ils ont pris tous les innocents qui étaient autour, qu'ils ont envoyés au poteau. Ils en ont fait des coupables, les Massamba Déba, les Ndoudi Nganga, les Kiangila, des gens que je connaissais très bien. Alors, ça m'a fait un coup terrible, je souffrais. Mais c'est de mars 77 à peu près à... juillet, que j'ai écrit la première version de La vie et demie, mais pendant 3 mois, ça. J'ai écrit pendant 3 mois, puis à la fin, j'ai demandé à Henri Lopez, qui est un ami, qui travaillait à l'époque, il était ministre des Finances, je crois, de me faire taper ça, parce que j'avais pas de machine à écrire, j'avais rien de ça. Et puis j'ai envoyé d'abord à l'Harmattan, je crois, Il ne m'avait pas répondu, puis c'est l'essai qui a réagi très vite.
C'était l'année où Shaedana avait eu 15 ans. Mais le temps est par terre. Le ciel, la terre, les choses, tout, complètement par terre. C'était au temps où la terre était encore ronde, où la mer était la mer, où la forêt, non, la forêt ne compte pas. Maintenant que le ciment armé habite les cervelles, la ville, mais laissez la ville tranquille. Voici l'homme, dit le lieutenant qui les avait conduits jusqu'à la chambre verte du guide providentiel. Il avait salué et allait se retirer. Le guide providentiel lui ordonna d'attendre un instant. Le soldat s'immobilisa comme un poteau de viande kaki. La chambre verte n'était qu'une sorte de poche de la spacieuse salle des repas. S'approchant des 9 locumènes que le lieutenant avait poussés devant lui en criant son amère « Voici l'homme », le guide providentiel eut un sourire très simple avant de venir enfoncer le couteau de table qui lui servait à déchirer un gros morceau de la viande vendue aux 4 saisons, le plus grand magasin de la capitale, d'ailleurs réservé au gouvernement. La loque-père sourcillait tandis que le fer disparaissait lentement dans sa gorge. Le guide providentiel retira le couteau et s'en retourna à sa viande des 4 saisons, qu'il coupa et mangea avec le même couteau ensanglanté. Le sang coulait à flots, silencieux, de la gorge de la loque-père. Les 4 loque-filles, les 3 loque-fils et la loque-mère n'eurent aucun geste, parce qu'on les avait liés comme de la paille, mais aussi, et surtout, parce que la douleur avait tué leurs nerfs.
Extrait de La vie et demi du Paris-Loire Monique, premier roman de Sonny Laboutancy publié aux éditions du Seuil avec cet avertissement de l'auteur. Des amis m'ont dit « je ne saurais jamais pourquoi j'écris ». Moi par contre je sais, j'écris pour qu'il fasse peur en moi. C'est l'une de ces phrases clés, Nicolas Martin-Crenel.
Oui, et c'est sûr que ce roman a été écrit sous le coup des événements de mars 77 qui inaugurent, vous l'avez dit, une période pessimiste, une période plutôt nihiliste, mais ce qui n'empêche pas l'humour noir dans ce passage. Mais il est donc une nouvelle poétique, effectivement, à la mesure de cet événement. Et là, il va dire, pendant cette période-là, j'ai vomi en 3 romans, parce qu'il écrit dans la foulée aussi Les Tarenteux, et il finit L'Antépeuple. Et sur la mocheté, quoi, sur cette période, c'est, on peut dire, roman noir, au sens vraiment... qui comporte aussi de l'humour noir d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans un entretien qu'il m'avait donné quand j'étais arrivé à Brazzaville, il parle de cette période, que quand tout était trop dur, la seule manière de continuer à écrire, c'est pratiquer l'humour, quoi. C'est dans ce régime carnassier qui était à la fois ces républiques marxistes, socialistes, enfin, qui se prétendaient comme telles, mais qui pratiquaient les liquidations, tout ça. Bon, en particulier, les 3 présidents, coup sur coup, et surtout le cardinal Biyenda. Ça a été un choc terrible. On a quelques lettres à François Ligier qui parle de ce choc où il a remis tout à zéro et il écrit comme ça. Il cesse d'écrire la poésie un peu presque, mais parce que c'est trop noir.
Restez à l'écoute des mots, des romans et aussi du théâtre de Sonny Laboutancy. C'est à suivre dans La Marche du Monde avec Nicolas Martin-Granel et aussi Dieudonné Nyanguna, comédien et metteur en scène congolais. Ayant eu le culot de naître africain, lui aussi a un droit de regard sur tous les contes de l'humanité, notamment sur celui qu'on nomme Histoire, pour citer Sonny Laboutancy.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de La Marche du Monde, consacrée à l'œuvre poétique et politique de Sonny Laboutancy, dont la pièce « Antoine m'a vendu son destin » est mise en scène par Dieudonné Nyanguna, en dialogue avec son propre texte « Sonny chez les chiens » ou « Quand l'élève questionne le maître ».
sommes sortis, Votre Altesse. Sommes-nous les plus seuls au monde? Seuls, nos respirations nous écoutent. Personne ne nous voit. Personne ne nous entend. Nous sommes seuls.
Sommes-nous sortis du monde? Je crois que c'est l'une des phrases cardinales de toute la poésie théâtrale de Sony. Si bien que quand j'ai créé mon festival de théâtre à Brazzaville, Mantina sur scène, depuis 13 ans, j'ai toujours ouvert chaque édition avec cette phrase. Dès que j'arrivais, je disais « Sommes-nous sortis du monde ?» Rifo-Roni et tout le monde reprenait « Nous en sommes sortis, Votre Altesse. » Et même ceux qui n'étaient pas au courant que cette phrase-là sortait de « Antoine m'a vendu son destin ». Pourquoi ? Parce que cette phrase, dans toute sa dimension poétique, elle renferme en même temps une dimension très philosophique, politique, actuelle. Et je peux même croire que si Sony n'avait pas mis cette phrase-là au début, j'allais me méfier de la pièce « Antoine m'a vendu son destin ». C'est parce qu'il y a cette phrase-là qui dit « Sommes-nous sortis du monde ?» qui est une grande évocation et qui me ramène à beaucoup des phrases des grands auteurs poétiques, non seulement de la raison et nation nègre et culture, comme disait Tiaconta Diop, mais à cet endroit aussi de lutte de l'universalité. Tout comme Aimé Césaire le ponctue si bien dans « Cahier d'un retour au pays natal », il commence par « Au bout du petit matin ». Et c'est vachement important, c'est au bout du petit matin, comme ce « Sommes-nous sortis du monde ?» C'est cet appel des lendemains qui doivent chanter et qui doivent arrêter de déchanter.
Arrive chez les chiens et invente la bêtise de se prendre au sérieux. Évidemment, c'est un auteur. L'affront est tellement criminel que les chiens le traînent devant l'aîné des chiens. Potagua, il est où ton zeus? Ton zeus? Il ne parle pas à voix chef, ça doit être un humain. Un humain de la race des grosses têtes. Mais qu'est-ce qu'il fout chez les chiens? Qu'est-ce qu'il fout chez nous?
Dieudonné Nyanguna, metteur en scène d'Antoine m'a vendu son destin et de Sony chez les chiens.
Sony chez les chiens, c'est d'abord une relation de je t'aime moi non plus. Il y a un proverbe congo qui dit Wadia Fouayikadio, c'est-à-dire si tu hérites de quelque chose, il faut que tu le fasses fructifier. Si ce n'est que pour l'avoir, ça ne s'appelle pas un héritage, ça s'appelle du gaspillage. L'héritage, c'est quand on développe ce qu'on a reçu. Donc c'est à la personne qui hérite, qui à partir des facteurs de ce qu'il a reçu, doit questionner son présent en partant de ce qu'il a reçu. Et ça qui est très important, cette alchimie-là, pour moi, c'est là où évidemment la notion de l'héritage s'explique. C'est de dire comment moi qui suis nourri de cette poésie de Sony et de cet engagement philosophique, politique, poétique de Sony, l'endroit où ça m'emmène. Donc, il est important, évidemment, pas de mettre en doute, mais réellement de questionner. Il est important de demander des comptes à l'histoire. Histoire grand H, comme on a toujours dit, oui, mais ce genre de mots, quand on dit histoire, comme quand on dit liberté, démocratie, c'est tellement des grands mots qu'il y a tout à l'intérieur. Mais non, c'est pas des grands mots. C'est juste une sensibilité réelle qu'il faut avoir avec. Et l'histoire commence par maman, l'histoire commence par ma grande sœur, l'histoire commence par mon voisin du quartier, l'histoire commence par le livre que j'ai lu, par ce type-là qui m'a inspiré. L'histoire commence par, évidemment, cette personne-là qui a fait la mise en scène avant moi. L'histoire commence par la personne qui m'a amené au théâtre. Et si je dois questionner l'histoire, ça veut dire que je dois questionner Sony. Pas seulement lire Sony et l'adorer comme je l'adorais, mais le questionner. Alors, je l'invite dans une fable que je crée, Sony chez les chiens, qui s'appelle une espèce de « Je t'aime moi non plus ». Où, par ma bouche, je peux faire entendre un certain nombre des voix des sans-voix, des héritiers et aussi des orphelins. Des orphelins du « nous » et des puissants en « on ». Parce qu'on est toujours « on ». Mais en qui?
Mais je ne sais plus comment il est mort au fait, ce Sony. C'est comme Bruce Lee, arrivé à un niveau de Kung Fu, ce n'est plus possible. Thomas Sankara,
c'est pareil. Heureusement qu'on l'avait tué. Il était arrivé tellement à un niveau de puissance idéologique, même les dieux avaient commencé à flipper. Ben Marca, c'est pareil. On l'avait tué. Je n'en pouvais plus. Trop fort le gars. Du matin au soir à se faire cuisiner, lui ne voulait pas crever. Le tuer, c'est pareil. Patrice Lumumba, on laisse tomber celui-là.
Questionner Sony à cet endroit-là, c'est nous questionner sur ce qu'on est en train de faire maintenant nous-mêmes. Et donc, c'est de là que part d'abord la première volonté de créer Sony chez les chiens. Donc, cette espèce de lent procès fait à l'histoire par le truchement d'une grande figure comme Sony. Et j'insiste en disant Sony, pas Sony Laboutancy, parce que Sony, dans le Sony chez les chiens, on l'appelle Sony, comme étant un personnage de fiction. Mais en même temps, cette fiction-là est une métaphore de la réelle vie ou des réelles situations d'un point de vue poétique et politique que Sony a connu. On l'a tué. Mais c'est ça qui est beau, c'est ce fameux « on ». Ce fameux « on », on ne sait pas qui est dedans. On qui ? On l'a tué. On dit tous « on l'a tué ». On l'a tué. Mais qui ? C'est « on l'a ». Crée toujours un mystère. Et le « on » complexifie complètement toute la chose. Voilà pourquoi dans ce texte qu'on arrive à un moment d'une grande litanie de « on l'a tué ». Alors on parle de Patrice Lumumba, on parle de Ken Sarawiwa, on parle de Norbert Zongo, on parle d'Uche, on parle de Steve Biko. Et c'est « on l'a tué ». Mais ce « on » là, il est vachement riche parce que ce « on » là, c'est autant tous ceux qui n'ont pas veillé au grain, même si ce n'est pas eux qui ont appuyé sur la gâchette. Donc ce « on » qui ne peut pas être catégorisé en disant « c'est l'impérialisme », en disant « c'est l'Occident », en disant « c'est les contre-révolutionnaires ». Ça, c'est une manière très très cliché de définir les choses. Parce que le premier crime est commis par l'insouciance.
Dieudonné Nyanguna questionne l'héritage de Sony Laboutancy. 6 romans, des centaines de poèmes, une vingtaine de pièces de théâtre. Découvert par Françoise Ligier, productrice RFI dans les années 70, Sony Laboutancy est reconnu internationalement en 1973 en gagnant le premier prix du concours de théâtre interafricain organisé par RFI, qu'il obtiendra d'ailleurs 2 autres fois. Alors son théâtre, c'est une aventure que vous avez partagée, Nicolas Martin-Granel, vous qui proposez de multiples éditions critiques de l'œuvre de Sony Laboutancy, un artiste qu'il faut aussi replacer dans le temps de l'histoire du socialisme congolais. Et dans ce cadre-là, quel sens, à votre avis, a pris la formation du Rokado Zulu Théâtre ?
L'héritage n'est pas encore, il faut que ça sorte encore. Hein, je reviens de Brazzaville, j'ai été au Festival Mancina sur Seine, il y a eu des lectures de Sony, il y a quand même quelques vétérans du Rokado qu'on a retrouvés, Stan, Nicolas Bissi, bien sûr, qui sont là, qui ont gardé quand même non seulement de mémoire, mais qui ont quelques documents. Donc, je pense que je peux pas répondre parce que c'est, on rassemble pour le moment les pièces, faut déjà faire l'inventaire, donc je peux pas trop m'avancer. Mais c'est encore un continent, bon, qui est mieux connu que la poésie, mais je pense qu'il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de versions. Par exemple, vous avez signalé que 73, le premier prix donné à Conscience de Tracteur, en effet, ce qui a donné le point de départ Conscience de Tracteur, c'est quand même là dans ce mot-là que Sony invente le cosmocide, qui est quand même d'une actualité incroyable, parce que maintenant on parle écocide, mais lui, il avait trouvé cosmocide. Donc cette conscience, cette pensée déjà écologique, hein, il l'avait depuis 73, depuis les années 70. On n'en parlait pas à l'époque.
Cette pratique théâtrale de Sony Laboutancy est née très tôt. C'est Sony qui raconte, il était encore prof d'anglais.
J'ai commencé réellement, je crois, au théâtre à partir du moment où j'étais formé comme enseignant. Et puis, il faut enseigner le français, l'anglais. Je me dis, mais ça n'a pas de sens. Le programme, c'est pas pratique. On a l'impression d'avoir des récipients pleins en face de vous et puis de verser du savoir là-dedans. L'image est horrible. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai changé mes cours d'anglais en cours de théâtre, sans le vouloir. Donc, on faisait des spectacles à l'intérieur. On avait une heure. Et pendant cette heure, bon, on choisissait des acteurs, on choisissait du public, et puis on essayait de jouer, quoi. Et ça devenait, à un moment donné, d'ailleurs, des gens des quartiers qui venaient tous aux fenêtres, et le cours d'anglais était devenu un truc comme ça. On a fait une petite troupe qui s'appelait les Étonnants Bleus. Et puis un jour, les autorités viennent dire, bon ben il faut aller jouer pour... On a une délégation officielle, votre théâtre c'est bien, il faut venir jouer. Moi j'ai averti, j'ai dit, ah, ça sera pas simple. Il dit, non, 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 il n'y aura pas de problème, tout ça. On jouait l'avare. J'ai dit, toi, on jouait l'avare de Molière, moi-même j'étais harpagon et tout. Puis on arrive dans un bar... à Kinamba, il y avait quoi? Il y avait peut-être 600-700 personnes. Bon, puis il y avait la petite brochette d'autorité. Alors on joue, et puis je reçois le chef de la police qui vient me dire, ah, votre truc là, c'est pas rouge, il faut arrêter, il ne faut pas jouer. Je dis, mais comment? Et comment on fait? Il me dit, non, mais arrêtez. Je dis, ah non, moi je joue avec des élèves, nous faisons des choses bien, nous sommes persuadés que ce que nous faisons est bien, je ne peux pas leur dire que ce n'est pas bien. Alors on s'est disputé un peu, il dit, non, mais ne dites rien au public, ne leur dites surtout pas que vous avez arrêté pour telle raison. J'ai pris mes lunettes, j'ai dit, mesdames et messieurs, les spectacles s'arrêtent, ceux qui veulent le voir, suivez-moi chez moi, et puis parce que ce n'est pas rouge alors. Les gens se sont révoltés, ils ont lapidé la délégation officielle. Et alors ça a eu des répercussions, le conseil de discipline, je suis passé au conseil de discipline, interrogé, machin, tout ça. Mais du point de vue pédagogique, je trouve que c'est la pédagogie active et le théâtre, je crois, est un moyen pédagogique de ce point de vue-là qui est important. Moi, je dis toujours que le texte, c'est un prétexte au spectacle, c'est-à-dire un moment... de communication intense. C'est ça le problème. Pour moi, le théâtre, c'est un moment de communication intense.
Le théâtre de Sonny Laboutancy est-il engagé? Et surtout, de quel engagement parle-t-on? Sonny Laboutancy donne sa définition à cette question essentielle.
Je suis Congo. J'ai une réalité culturelle. Il y a des Français qui ont une autre réalité culturelle sûrement, mais avec lesquelles je peux faire des choses en commun pour vivre, pour que la vie soit meilleure. Je ne veux pas être un faux Français. Je ne veux pas être un faux Belge. Je ne veux pas être un faux Canadien. Je ne veux pas être un faux Russe. Je voudrais être un vrai Africain. Un vrai homme. Je ne veux pas aussi être un faux homme. C'est ça mon engagement. C'est dans ce sens-là qu'on peut me parler d'engagement. Bon, ensuite, l'homme dont je parle est créateur de valeurs. L'homme crée des valeurs. C'est moi qui crée en tant qu'homme, je crée des valeurs. Et ces valeurs, je dois tout faire pour les mettre à la mesure de l'homme, parce que j'aime l'homme. Et voilà le sens exact de mon engagement. Maintenant, s'il faut être engagé pour écrire des poèmes comme j'en ai entendu, du genre « Oh, révolution, oh, Afrique du Sud, oh, ceci », complètement en passant à côté de la réalité, l'Afrique du Sud, d'accord. Mais il y a des Afriques du Sud partout. Parfois, à la porte de ta chambre, tu as l'Afrique du Sud. Je crois que ma priorité absolue par rapport à l'engagement, c'est l'homme.
La musique de Franco, pour vous, Nicolas Martin Granel, l'amour, l'humour, le grotesque, autant de façons pour Sonny Laboutancy de garder espoir et de rester du côté de la vie, vous qu'il connaissez bien, qui connaissez bien son œuvre. Quelle importance ont les chanteurs, Franco et les autres, dans l'œuvre de Sonny Laboutancy, dans son inspiration?
Je crois que c'est fondamental. De toute façon, c'est pas que Sonny, hein, mais quand on arrive au Congo, c'est quand même un foyer musical étonnant. Il ne faut pas oublier que Sylvain Mbah avait écrit une histoire de la musique, qu'ils étaient eux-mêmes souvent musiciens. Enfin bon. Alors là, sur Franco, Sonny, il a fait une pièce de théâtre. Hein. On n'a pas retrouvé encore le chemin de fer, comme on dirait. Mais en tout cas, c'était en Igala. C'est encore une. On est sur la piste. Et ça, c'était quelque chose qui accompagnait. Et pour eux, c'est la poésie, d'ailleurs. Il est dit à un moment dans un texte sur Kinshasa, de toute façon, voilà, Franco, c'est notre Molière. Et Rochereau, notre Verlaine. Oui. Donc, et c'est vrai, les chansons de Henri Lopez qui lui-même a écrit des chansons, une chanson. Si vous prenez Les Enfants de Poto-Poto, ça fait partie du fleuve, de la littérature du fleuve, de la musique du fleuve. Donc, les orchestres s'appelaient Ok Jazz. On ne fait pas la différence entre la musique afro-cubaine, le jazz, et la rumba, et ce que tout ça a apporté, les différents genres musicaux. Et quelqu'un comme Patricia Ngo qui vient dit, mais ça, dans la poésie, ça, c'est transcrit du Lingala. Voilà. Quelque part, non, on ne parle pas comme on écrit. L'écriture, c'est chercher l'obscurité sécurisante du langage. Cette formule, je trouve qu'il a pu trouver ça. C'est ça, l'écriture. Et c'est pas parler. Et à un moment, dans une lettre, dans une carte postale, il dit, il est à Nice, il écrit à José Puvin ou à François Giguère, je ne sais pas, il dit, mais ici, je m'aperçois, les gens parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup, mais ils ne disent rien. La distinction entre parler et dire, voilà, c'est très particulier.
Motu ya pauvre, na kanisa ida mwasi na bala, na kanisa kaka bano yo na bota, na sepela kaka pasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa.
Le théâtre de Sony Laboutancy, un théâtre qu'on peut dire aussi peut-être citoyen, ne va pas suffire en tout cas à l'engagement de Sony Laboutancy puisqu'il prend la parole pendant la conférence nationale qui se déroule au Congo au début des années 90. Tout comme son ami écrivain Sylvain Memba, il pense que le pouvoir peut changer de camp.
Les nations qu'on dit jeunes en Afrique, les souverainetés, je crois qu'on est en train de les fabriquer. Il ne faut pas les avoir avant de les avoir fabriquées. Ils ont les problèmes importants qu'on ausculte en disant on va faire l'unité nationale. Mais l'unité nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec un tel, c'est ça? Avec ça, on peut faire l'unité nationale. Ça veut dire qu'il faut opprimer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec un tel. Est-ce que c'est ça l'unité nationale? L'unité nationale, c'est l'acceptation des différences. Il y a des choses que le colon a fait chez nous et que des gens de chez nous continuent à faire aujourd'hui. Mais quand les colons les faisaient, c'était des péchés. Et maintenant que des gens de chez nous le font, on ne peut même pas leur dire ça. On ne peut même pas leur dire que ce que tu fais là, ça s'appelle travaux forcés. Mais il faut le dire. Mais ce n'est pas parce que c'est nous qui le faisons, il faut le dire sans haine. Moi, je ne crois pas que c'est par la haine qu'on puisse résoudre quoi que ce soit. Ça ne peut être que par l'humour, le rire. Ça fera avancer petit à petit, mais je crois qu'il est important qu'en Afrique, il y ait des endroits, des places publiques où on peut débattre des problèmes. On ne peut pas faire un pays sans accepter les autres. Ce n'est pas possible.
À la fin de sa vie, Sony Laboutancy entre en politique, hein, donc il va être député du MCDDI de Bernard Coléas. Alors c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte historique extrêmement particulier, Nicolas Martin-Granel. Comment vous comprenez cet engagement? Avait-il besoin de cela?
Alors c'est une période extraordinaire où la presse, la libération de la parole qui était formidable. Sony était en même temps où il écrivait des articles, enfin c'était une période d'éclosion, de libération formidable. Alors effectivement cet engagement, bon je ne dirais pas il s'est trompé etc, ça a du sens. En tout cas ça avait grand sens par rapport à ce qu'il a, son opinion politique, par rapport à ses pensées. J'ai pu constater moi en tant qu'anthropologue, j'ai écrit là-dessus, il y a eu une affaire Sony, c'est vrai, parce que alors non seulement par rapport à ses amis français qui ne comprenaient pas trop qu'est-ce qu'il faisait là-dedans, pourquoi était-il entré dans cette galère politique. Mais il faut dire que d'abord, c'était pas forcément une galère politique au départ. Hein. C'était, pour mon avis, c'était assez logique dans son engagement à partir des années 85, 86, aux côtés de Coléla. Bon.
Et c'était vraiment l'histoire en marche. C'était un moment absolument
extraordinaire.
Et puis,
il faut voir qu'on est passé de la résistance. C'était au départ de la résistance, comme on dit, comme on s'engageait dans la résistance par rapport au parti unique. Et ensuite, l'histoire, on va pas entrer dans les détails, c'est compliqué. Mais effectivement, il y a eu une ethnicisation, enfin, une instrumentalisation de l'ethnie. Plus ou moins, que lui-même pensait-il de cet engagement auquel il était, il ne pouvait pas peut-être faire machine arrière, et c'était peut-être compliqué pour lui. Donc il s'est passé plein de choses et jusqu'à la guerre civile, quoi. Donc c'est là où effectivement ses amis ont dit mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Bon, moi j'ai étant sur place, j'ai trouvé ça relativement logique et j'ai cru percevoir que malgré tout, il y avait un gros malheur là-dedans, qu'il se sentait, je dis pas fourvoyé, je pense pas qu'il a jamais regretté d'être, mais là où l'emmenait, on peut dire, ce fleuve politique, cette fois-ci, c'est une manière de se fracasser. D'où cette tentative de remonter à la source. Et c'était une controverse, je pense, avec, en particulier, Chikaya Outamsi, mais même Sylvain Memba, des gens comme Dongala, etc. Et Sylvain disait non, on remonte pas à la source, on va au, on fait comme le bateau ivre, on va jusqu'à la mer, on s'y noie, mais on remonte pas à la source.
Et justement, pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça voulait dire, justement, revenir à la source?
Eh ben, c'était le rêve du royaume, le rêve de retrouver le royaume, il disait l'histoire, on nous a piqué 5 siècles. Donc de refaire notre histoire, de se réapproprier une histoire, parce que c'est pas que la colonisation, c'est les Portugais, c'est cette époque où je découvre qu'ils rêvaient de recoudre les continents, le Brésil, l'Afrique, ils rêvaient d'une île. Enfin, bon, c'est une utopie si on veut, mais on a besoin d'utopie. Effectivement, c'est tombé dans le sang. Il y avait aussi pas loin le Rwanda, hein, le spectre du génocide. Donc tout ça a pesé quand même beaucoup là-dessus. Et l'histoire n'est pas terminée, hélas. Et je pense que si Dido reprend, il y a ça, il y a cette résistance qui revient. Et je pense à la chanson de Franklin Moukaka, le bûcheron, qui déclinait tous les héros. Comme ça, et c'est ce que fait Dido, il me semble, là-dedans, c'est de reprendre la série des héros, qu'est-ce qu'on peut remettre debout, et Franklin Moukaka, dont on voit qui a été liquidé, là aussi, comme les autres. Franklin Moukaka, d'ailleurs, qui est dans un des romans de jeunesse de Sony, il reprend cette identité-là.
Merci Nicolas Martin-Granel. Les références de vos différentes éditions de l'œuvre de Sony Laboutanci sont à retrouver sur la page de La Marche du Monde sur RFI.fr. Et puis à votre appel, on se quitte avec le blues pour Sony de Dido, de Dieudonné Nyanguna, pour la première fois diffusé sur RFI.
Blues pour Sony, c'est une veillée où on n'enterre aucun mot. Au contraire, où on ressuscite les mots, où on les fête. Où évidemment, on annule l'état d'urgence pour rendre la parole compétente. Et qu'elle parle et qu'elle s'exprime pour libérer les corps, parce que les corps ont trop été attachés par des formes de dictature, des formes complètement contraignantes de muselage, des restrictions, des censures, des emprisonnements, des aboiements, des mises en garde, des intimidations. Il faut que le corps s'ouvre pour que l'esprit se libère et qu'on puisse arriver à repousser à plus tard la mort de la vie. Blues pour Sony, je l'écris comme étant un long chant qui fait appel, évidemment, à ces bacchanales poétiques-là, pour que, évidemment, le corps puisse danser et l'esprit puisse s'émouvoir et que la liberté soit au rendez-vous. Dans ce cercle culturel Sony Laboutanci de Bakongo, la nuit où nous battons des tam-tams, circule le fantôme du grand prêtre, Sony lui-même. Son nom inscrit sur les murs nous rappelle les paroles du prophète. Fils, sois fort, qu'il vienne le jour, qu'il vienne la nuit, affermis-toi, que 10 000 tombent à ta gauche et 100 000 à ta droite. Ne crains rien, marche droit comme une pensée. Une odeur de gens nous épate par ici, comme une réserve du genre humain qui danse. Dans ce cercle où l'odeur du gibier et les remues de défis sauvages saccagent l'ineptie de vivre entouré de quelque alcool. Et nous fêtons, dansons, panne au vent, chemise arrachée, rumba au rein, dans l'extase du grand maître rédempteur. Il n'est pas d'autre bacchanal dans ce Congo maniaque que la furie de mangeurs de grève, de buveurs de nuit, des saltimbanques en jachère et des salopards en syllabé de la colère du grand frère ressuscité. Guitare crevée et Ndombolo infatigable, luxure et sexualité à outrance, poésie boucan des bruits de la rue et ensemencement des débats des francophonisés pour trouver l'amertume du grand frère érigé sur le mur. Dans ce cercle, gueuloir de zombies, parfaitement imité depuis la création de la liberté des autres, et Kaya Makele qui se les gratte encore accentué d'un putain de coup de vieux et des aboiements répétés au cœur du froid si froid qui nous encercle comme un îlot de résistance sous ce nuage d'océan de main levée qui dévaste tout, et moi qui continue à aboyer parce que moi aussi je suis un chien. Sommes-nous sortis du monde Riforoni? Et personne ne me répond. Ah, les chiens ont bien été mordus, aboyement du ciel et de la terre. Chaque chose comme la fin de l'apocalypse s'avoisine au commencement des plaisirs, puisqu'il faut chasser la douleur. Patate, et moi qui continue d'aboyer, sommes-nous sortis du monde Riforoni? Et putain, tous ces chiens sont morts. Le chien Misakidji qui fut le premier à aboyer cette pensée quand Antoine m'a vendu son destin. Le chien Paul Milongo qui ne marchait jamais en violation. Le chien Maurice Dibengue qui rentrait et sortait de la rue des Mouches. Le chien Eric Mampouya, le grand écart de la génération sacrifiée.
Et tous les chiens fatigués de mourir en étant vivants. Et je me dis, nom d'un chien, quel cimetière de chiens ce pays.
Sonny Laboutancy, engagé poétique vivant, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Elliot Bourrel avec les archives de RFI de Nicolas Martin Granel. Avec des extraits de la pièce Antoine m'a vendu son destin, Sonny chez les chiens, mise en scène par Dieudonné Nyanguna, dont la bande-son que nous écoutons est signée Pidge. Le spectacle est à découvrir sur la scène du Théâtre de la Colline jusqu'au 18 mars. On se retrouve sur notre page Facebook. Vos réactions sont les bienvenues et n'oubliez pas de consulter notre page La Marche du Monde sur RFI.fr où vous retrouverez toutes les infos bibliographiques et les liens internet au sujet de cette émission. Écrivez-nous, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.